Devenir société à mission, ça montre vraiment cette mission commune, cette mission collective. Et la raison d'être, pour moi, c'est en fait, ça dit ce que tout le monde fait dans l'entreprise. Ça permet qu'on fasse de la comptabilité, du marketing, ou qu'on ait des bottes et qu'on soit dans la cave. Mais en fait, on répond tous de cette raison d'être.
Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable, et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode d'une série thématique consacrée à l'univers viticole. Le premier échange avec Pauline Versace, fondatrice de La Vie Bonne, nous avait emmené vers Bordeaux, dans le no-tourisme. Avec Morgane Le Breton, nous partons dans le Languedoc, au cœur d'une maison qui gère 4 domaines viticoles. Morgane est marketing manager de l'entreprise et se prépare doucement mais sûrement à reprendre les rênes de l'organisation avec ses frères et ses sœurs quand son père leur transmettra. Sujet qu'on aborde d'ailleurs, vous verrez, c'est assez intéressant. Et globalement, cet échange est passionnant de bout en bout. La maison Le Breton est vraiment pionnière en matière de RSE, ça fait plus d'une dizaine d'années qui s'intéresse à ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est amusant d'entendre Morgane relater quelques anecdotes sur des auditeurs qui passaient de L'Oréal la semaine d'avant à eux, petite structure d'une dizaine de personnes la semaine d'après. Mais faire du vin et de la RSE, c'est dans l'ADN de la maison. Et donc ça se traduit partout. À la vigne, dans le paysage, dans les bureaux, dans la mise en bouteille, dans le transport, mais aussi sur la consommation. Cette envie de toujours progresser s'est également reflétée dans un souhait d'être labellisé pour être transparent sur les efforts réalisés. Donc forcément, ça passe par des normes ISO, mais également le label B Corp. A chaque fois, l'ambition est la même, être challengé, se faire poser des questions auxquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de penser, notamment sur les aspects sociaux, vous verrez. Et d'évoluer parfois, plus doucement qu'ils ne le souhaiteraient, parce que quand même le milieu du vin reste traditionnel, mais quand même d'évoluer et de faire des progrès et d'innover. Morgane nous explique également le choix de s'être engagé vers la société à mission, ce qui a été fait en 2021. On revient sur la raison d'être très singulière, vous le verrez, et les objectifs statutaires, ainsi que sur la mobilisation de différentes parties prenantes. Alors clairement, j'aurais préféré être au domaine de l'Alsace, un de leurs domaines pour cette discussion si riche, mais vous verrez, Morgane arrive plutôt bien à nous donner l'impression d'y être. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'écoute. Bonjour Morgane.
Bonjour Vivien.
C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette série spéciale d'épisodes dédiée à l'univers viticole. Alors avec vous, on va partir sur les beaux terroirs du Languedoc, entre le Pic Saint-Loup et les terrasses du Larzac. C'est deux appellations que j'affectionne tout particulièrement en plus. Mais bon, avant cela, traditionnelle présentation de l'invité. Donc Morgane Le Breton, je dirais que vous êtes la relève dans la continuité. Vous êtes aujourd'hui responsable marketing de la maison Le Breton, l'entreprise familiale qui chapeaute vos trois domaines viticoles, le domaine de la Jasse, le domaine Mont-Lobre et les vignes des Deux Soleils. Vous inscrivez dans les pas de votre père, Bruno, qui gère l'entreprise et qui, de longue date, a fait de la RSE un enjeu de bonne gestion des domaines. Avant de poser définitivement vos valises dans l'entreprise familiale, vous avez un peu roulé votre bosse dans l'univers du marketing, histoire de voir autre chose quand même. Et aujourd'hui, vous vivez à plein l'expérience Le Breton et portez dignement le drapeau de la maison en étant impliqué dans la communauté B Corp et désormais comme ambassadrice de la communauté des entreprises à mission en Occitanie. Est-ce que vous souhaitez corriger ou compléter cette présentation?
C'est très bien, c'est très complet.
Eh bien, parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est que... Alors là, on est dans un 3 mètres carrés à peu près, donc on n'est pas sur le domaine. Mais bon, un domaine, ça se visite. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous nous fassiez une espèce de visite audio, peut-être du domaine de la Jasse, parce que c'est le domaine historique. À quoi ça ressemble un petit peu, le domaine de la Jasse? Faites-nous rêver.
Alors, il faut savoir qu'en Languedoc, on est sur le hotspot de biodiversité de la Méditerranée. Donc, il faut vraiment imaginer un paysage qui mêle vraiment vignes et garrigues. La garrigue, c'est ce maquis languedocien avec des herbes thym, romarin, des chênes, des genévriers cadres, beaucoup de cistes, de fleurs. On est sur un domaine qui fait 220 hectares d'un seul tenant, entre domaine de la Jasse et domaine de Mont-Lobre. Sur lesquels on a seulement une 40-45 hectares de vignes plantées. Donc il faut imaginer que pour un hectare de vignes, on a au moins un hectare de prairies permanentes, temporaires. Donc beaucoup de luzernes, de févroles, beaucoup de haies, de petits bosquets, de petites forêts, des cours d'eau, des mares qu'on a restaurées. Et au niveau de l'activité, on a le vieux mas, les vieilles pierres avec le vieux chien barrique et la maison de ma famille. On a un petit cours d'eau qui sépare la partie production avec la cave de vinification où là on a des cuves en inox, l'espace de production, les bureaux, le potager de l'équipe et le hangar avec tous les tracteurs.
Ça doit être assez sympa, même en termes d'odeur, ça doit être assez puissant, je pense. Les odeurs de garrig, c'est quelque chose qui est très... Ouais. Je trouve ça très agréable. Là, vous avez cité un chiffre qui est intéressant et on ne se rend pas forcément compte en fait, de ça. C'est que donc, le domaine, c'est 220 hectares, c'est quand même énorme. Hein. Mais donc, 50 hectares exploités pour le vin. Quand on voit ça, on se dit, mais vous faites quoi du reste?
Donc ce ratio, il nous tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu environnemental pour la biodiversité. Avoir cet équilibre, ça permet à la biodiversité d'avoir une multitude d'habitats, une multitude de sources de nutriments aussi, et aussi pour les paysages en fait. Donc on est sur la commune de Combaillot, au nord de Montpellier, et en fait la commune est un peu coupée en deux entre le domaine et le village avec les maisons. Donc on a toute une partie du village qui a vu totalement sur le domaine. Et en fait, bah, pour eux, et l'impact paysager, c'est quand même plus sympa d'avoir des forêts, de la garrigue, que des vignes à perte de vue. Et c'est aussi sympa pour la biodiversité. Et je donne toujours l'exemple des chauves-souris, qui pour se repérer ont besoin d'arbres. Et bien, s'il y avait des vignes à perte de vue, en fait, elles ne pourraient pas traverser une parcelle sans arbre au milieu.
D'accord. Est-ce que ça joue aussi sur le vin ?
Bien sûr. Ouais. Ah oui, les synergies entre la biodiversité et le vin a vraiment un impact. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroforesterie, justement, qui est le principe de mêler les cultures. Et c'est de se dire, ben, en fait, les animaux, donc les oiseaux ou les chauves-souris sont au service de la vigne, parce que les oiseaux vont manger les petits insectes, qui sont des insectes nuisibles, qui ont tendance à pondre leurs larves sur le raisin, qui vont du coup engendrer des maladies. Et des raisins qui ne soient pas sains. Donc oui, bien sûr, très important.
D'accord. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, ces maladies, c'est la peur de tout vigneron.
Tout à fait.
ces petits insectes qui laissent leurs larves. Il y a une expression qui est intéressante, en fait, quand on se plonge un petit peu dans l'univers de la maison Le Breton, alors qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, on reviendra dessus un petit peu après, et qui date de, j'ai l'impression qu'il y a une vingtaine d'années hein, maintenant, c'est le grand cru de tous les jours. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ?
Alors le grand cru de tous les jours, c'est né au tout début, donc on est arrivé en 95. Mon père est œnologue, il a été recruté par l'ancien propriétaire qui était un importateur néerlandais de grand cru de Bordeaux. Et en fait, lui, il avait un rêve, c'était de faire le grand cru de tous les jours de ses clients aux Pays-Bas. Et il a recruté mon père avec cet objectif-là. Il lui a mis une bouteille de grand cru, il lui a dit « voilà, je veux que tu fasses ça pour moins de 10 euros, de quoi as-tu besoin ?» Donc c'est comme ça qu'on a planté des cépages qui ne sont pas typiques du Languedoc, puisqu'on est plutôt sur du Cabernet Sauvignon et du Merlot, qui sont plutôt originaires de Bordeaux. Et en fait, c'est resté parce que c'est devenu bien plus qu'un positionnement marketing. Mais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il est inscrit dans notre raison d'être, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On veut offrir un vin accessible. Un grand cru, par définition, c'est un vin très spécial pour sa qualité gustative. Et en fait, nous, on veut mettre derrière les autres qualités que ça peut avoir et montrer qu'un grand cru aussi se doit d'avoir une qualité environnementale, une qualité sociale sur son territoire. Et du coup, offrir ça bah, dans une bouteille à tous nos clients, peu importe où ils sont.
Et parce que c'est vrai que quand on parle de grand cru, en France, on pense toujours effectivement à Bordeaux. On pense à des prix stratosphériques. On en parlait même juste avant de commencer sur certains domaines à Saint-Émilion, où bon, voilà, la bouteille est à 500 euros, etc. Vous, c'est pas du tout le positionnement en fait hein, du domaine. Hein. C'est de se dire justement, c'est le grand cru de tous les jours doit être accessible même en termes de prix. On sait que
Exactement.
C'est un enjeu fort dans le domaine du vin.
C'est ça. Donc en fait, la carte de visite de la maison, ça va être notre entrée de gamme, si on se fixe voilà, en termes marketing, c'est l'entrée de gamme, mais c'est la bouteille dont on est le plus fier, c'est la bouteille sur laquelle on travaille le plus, et en fait on apprend de ce vin et de ce qu'on fait en termes d'assemblage et de vinification pour ensuite faire des cuvées un peu plus haut de gamme, où là les techniciens vont un peu plus s'amuser pour tester des choses, mais nous ce qu'on fait c'est la bouteille de vin qu'on emmène en pique-nique, qu'on ouvre aux invitations aléatoires des amis. Et au final, on se rend compte bah, que quand on chérit un produit en toute simplicité, mais qui en fait fait exactement ce à quoi on s'attend, et ben c'est aussi un produit qu'on va ouvrir au grand moment de sa vie. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui nos clients. Donc on en est allé à la troisième génération chez certains de nos clients. Et en fait, bah, c'est le vin de leur maison. C'est le vin qu'ils ont toujours vu leurs parents, leurs grands-parents ouvrir. Et donc en fait, on a ce lien de génération en génération qui fait qu'on a voilà, une bouteille qui fait partie des murs chez les familles clientes.
Et alors, là, vous avez utilisé quelques termes, vinification, etc. Peut-être parce que certains sont peut-être passionnés de vin dans les auditeurs, d'autres peut-être pas trop. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment on fait du vin? Est-ce que c'est finalement, c'est pas juste du jus de raisin
C'est pas du jus de raisin. En effet, si on laissait vivre, donc la vigne, c'est une liane. Donc déjà, bah, il faut la tailler. En fait, on voit vraiment le vin comme une création de l'homme. Pour nous, on est vraiment des créateurs. Et c'est le champ lexical de la création se retrouve beaucoup dans notre raison d'être, justement, par rapport à ça. On veut vraiment montrer que c'est l'homme qui est là, parce que sans l'homme, le vin, bah, c'est une liane, donc ça part en liane. Et le raisin, ça fait du vinaigre. En fait, si on fait du jus qu'on laisse vivre, ça tourne au vinaigre. Donc on a des œnologues, il y a des grands mots dans le vin, le maître de chai, le chef de culture, les œnologues, tous ces techniciens et techniciennes qui œuvrent justement à trouver la bonne recette avec les bons ingrédients. Notre particularité, nous, c'est qu'on est producteurs et négociants. Donc dans nos bouteilles, vous trouverez le jus issu de nos raisins et de nos équipes et le jus issu de nos partenaires. Et donc là, dans l'univers du vin, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. On a le vigneron du village qui hérite des terres de père en fils, qui est tout seul, qui a l'option entre la cave coopérative, des gros négoces pour avoir du vin qui part dans des marques de distributeurs ou des endroits divers et variés, ou nous, un peu, voilà, un petit gros, un gros petit, qui va pouvoir lui dire, grâce à toi, voilà ce qu'on a fait, et nous aussi, du coup, on peut l'aider à améliorer ses pratiques et à valoriser son produit un peu mieux qu'avec une grosse offre. Et après, on va chercher des partenaires avec qui on travaille depuis plus de 20 ans et qui sont des vignerons, mais qui veulent pas, qui font un peu de bouteille pour leurs voisins et leur village, mais qui n'ont pas la force de vente, la force marketing, et du coup qui profitent avec nous d'avoir des produits bien valorisés. Donc on a souvent ce qu'on dit, la vigne, la cave et le bureau.
Alors, si on prend les différents aspects justement un petit peu pour voir comment ça fonctionne, à la vigne, là on enregistre en février, qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Alors on est à la taille, on est en pleine taille, la vigne est en dormance. Une campagne commence en novembre après les vendanges, en fait, quand justement le froid commence à arriver, les feuilles tombent, on attend que toutes les feuilles soient tombées pour attaquer la taille. Donc là l'équipe commence tôt le matin quand il fait un peu froid pour tailler les vignes, et en fait c'est le moment le plus important, je dirais, parce que pour l'avoir fait, c'est très compliqué. On choisit le sarment, donc le bois qui va porter les fruits en fait de la saison et du prochain millésime. Donc il ne faut pas couper le mauvais bout de bois, et je m'y suis attelée et j'ai pas coupé les bons bouts de bois. Donc c'est très très compliqué, très intéressant. Ensuite, on va avoir le débourrement, donc les premiers bourgeons qui vont sortir en mars-avril. Et après, on va attaquer tous les travaux en verre. Il y a des bourgeons qui vont sortir, par exemple, au pied des vignes qui, eux, ne servent à rien. Donc, on va aller ébourgeonner, les retirer à la main. On va travailler un peu tout le sol comme ça. Et après, ça va sortir. Donc là, justement, on va voir vraiment ces grandes lianes qui vont sortir du cep. On va relever toutes les lianes pour que ça puisse être plus praticable avec la machine à vendanger. Nous, on travaille en machine à vendanger. On va aller vendanger avec l'équipe, du coup. Donc là, c'est de plus en plus tôt, avec des règlements climatiques. On voit qu'on attaque, fin août, autour du 22 août l'année dernière. Et après, ça va dérouler et on va arriver à la Toussaint où les jus seront dans la cave. Et là, c'est l'équipe vigne qui passe le flambeau à l'équipe cave pour le jus. Mais l'équipe vigne va se recommencer, attaquer la nouvelle campagne en novembre.
Et une fois qu'on arrive en cave, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est juste mis en cave et puis ça dort pendant quelques mois
Le vin, on connaît des mots-clés, hein, vinification, ouais. Fermentation, tout ça. Donc en effet, on va... Nous, on travaille avec des levures neutres. On travaille avec la même levure depuis le début. On a des levures partout, dans tout ce qui nous entoure. Là, en effet, dans notre 3 mètres carrés, il y a des levures, ces petits champignons qui nous entourent avec des bactéries. On va parler, il y a beaucoup de maisons de vin qui utilisent ces levures dites indigènes, qui ne font pas d'ajout de levure. Nous, on veut essayer de contrôler au maximum ce qui va se passer. Parce que justement, en fait, dès que la fermentation est engendrée et le vin, ça peut partir dans un profil gustatif où on ne va pas contrôler la qualité et ce qu'on cherche. Donc on utilise des levures pour pouvoir justement nous assurer, ok, on sait où on va aller avec ça. C'est des levures qui ajoutent aucun arôme, rien du tout. C'est vraiment juste pour procéder à la fermentation où on va avoir le sucre, en fait, les levures qui vont manger le sucre qui est présent dans le raisin. Et ça va créer deux choses, de l'alcool et du gaz et du CO2. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'aller dans une cave pendant les vendanges, c'est très dangereux, parce qu'il y a la création de CO2. Mmh. Et en effet, le CO2, hein, c'est l'humain ne peut pas respirer du CO2, donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et petite parenthèse, par ailleurs, il y a des études qui disent que si on capturait tout le CO2 créé pendant la fermentation, on pourrait très facilement équilibrer le bilan carbone de la filière vin dans le monde.
Je ne savais pas ça.
Ouais. Ah, donc du coup, ce serait de le capturer et de transformer, on peut en faire plein de choses, hein, bicarbonate, ce genre de produits. Il y a beaucoup de filières. Aujourd'hui, on en est aux prémices. Il y a des maisons dans Bordeaux qui ont déjà les équipements pour. Nous, à notre échelle, on sait que c'est le futur, on sait qu'on y arrivera parce qu'on est dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, ça représente des gros investissements où on préfère attendre que les gros tests pour nous, et ensuite on pourra y aller.
Qu'on se représente bien, parce que c'est vrai que vous avez utilisé, alors je sais que c'est une expression que vous utilisez assez fréquemment, un gros petit, un petit gros. C'est quoi un gros petit, un petit gros?
Donc nous, on est une équipe de 15, 17 en comptant mes parents, et un gros petit, petit gros, comme on est producteur négociant, on fait 1 million de bouteilles. Voilà. Et 15, c'est gros pour dans le coin. Donc voilà, autour, entre les Terrasses du Larzac et Pic-Saint-Loup, on n'est pas beaucoup à avoir ce modèle-là, à avoir une cave avec des grosses cuves, ce genre de choses. Là où il y a des maisons un peu plus petites, où ils vont être 5, un peu moins de 10, quoi. Mmh. Voilà. Et où ils vont faire beaucoup moins de bouteilles et travailler un peu plus de vin en vrac, justement, où ils vont amener ça à la cave coopérative, des gros négoces ou des négoces comme nous.
Donc, une fois que c'est en cave, etc., qu'est-ce qui se passe après? Bon, ça repose un petit peu.
C'est ça. L'élevage.
Et qu'est-ce qui se passe à partir de quel moment vous dites, tiens, c'est bon.
C'est bon.
Ça peut être mis en bouteille.
Donc là, on a... On dit souvent que la magie opère dans la cave, dans la vigne, dans le chai à barrique. On s'imagine le chai souterrain, on sent l'odeur un peu de moisissure, d'humidité. La vraie magie, elle opère dans la salle de dégustation. Là où justement les œnologues ont tous les échantillons, donc ils vont goûter toutes les barriques, toutes les cuves. Il y a des cuvées qu'on fait avec, on parle souvent d'élevage partiel en barrique, on va voir dans la bouteille finale un peu de vin issu de l'élevage en barrique, un peu de vin issu de l'élevage en cuve inox, parce que justement on va chercher des saveurs, des arômes, des profils gustatifs différents. Et en fait, là, c'est le diplôme d'œnologue, c'est une formation de chimiste, hein, parce que c'est de la chimie tout ça. Et donc c'est éprouvette. Ok, on va mettre un peu de la cuve 47, un peu de telle barrique, ok, 10%, 20%. Ok, c'est pas mal, ouais, mais c'est pas le profil gustatif qu'on cherche. Cette cuvée, c'est pas ça l'idée de cette cuvée. Là, cette cuvée, on cherche vraiment le côté mentholé de la barrique, la fraîcheur, un peu d'eucalyptus. Bon, ok, donc on va mettre un peu plus de ça. Donc voilà, c'est vraiment tout cet exercice-là. Aujourd'hui, on est dans l'entreprise, donc mon père est œnologue. Notre maître de chez Damien, qui est là depuis très très longtemps également, est œnologue. On a également Arthur qui est caviste, qui lui se forme un peu sur le tas. Alors c'est marrant parce que justement j'entends depuis peu là que de plus en plus ces assemblages ressortent un peu parce qu'ils font chacun leur assemblage, ils dégustent, ok c'est pas ça, et donc c'est super prometteur pour la suite. Et on a deux consultants externes, parce que c'est aussi super, très, super important quand on a la tête dans le guidon et qu'on fait des choses depuis 30 ans, d'avoir des personnes de l'externe pour nous dire non, non, attends, là, tu t'es trop chauffé, c'est... non, non, c'est pas le profil de Svein, là, on est sur un meuble pour tous les jours, très accessible, donc même si c'est la carte visite de la maison, non, l'objectif, c'est qu'il soit apprécié aujourd'hui, maintenant. Donc, ça nous permet de bien définir, justement, chaque cuvée, chaque profil et ce qu'on met dans la bouteille. Et donc, ensuite, mise en bouteille. Donc là, ça aussi, c'est un autre métier. Donc, on a un camion qui vient avec, avec une équipe pour mettre en bouteille chez nous.
Et sur ces différents aspects-là, qu'est-ce qui a évolué ou sur quels aspects est-ce que vous souhaitez évoluer ?
C'est l'aspect purement produit, en fait, et nouvelles créations, nouveaux cépages. Aujourd'hui, on teste beaucoup de choses. On a planté un cépage dit résistant, donc qui résiste naturellement aux maladies. Aujourd'hui, dans le bilan carbone d'un producteur de vin, les intrants et les traitements, donc les tracteurs, ça pèse énormément. Et donc là, à cause des maladies, les fameuses maladies dont on citait tout à l'heure, la plus connue qui est le mildiou. Mmh. Et si vous avez des plants de tomates chez vous et que vous voyez des taches blanches apparaître à un moment, voilà, c'est un champignon. Hein. Donc c'est ça qu'on retrouve aussi sur les vignes. Et en fait, ces pieds-là qui ont été créés par la recherche, beaucoup à l'INRA et Supagro à Montpellier, résistent naturellement aux maladies. Donc pas de traitement. Et c'est intéressant, il y a de toutes les couleurs. Nous, on a planté un cépage blanc qui s'appelle le Floréal. On l'a planté en 2020, donc on va cette année faire une récolte qui va nous permettre de faire vraiment quelque chose avec. On aura assez de raisins pour. On va chercher aussi des cépages comme le Roll, qui est un cépage qui est très utilisé en Italie sous le nom Vermentino, et où là on va avoir un cépage qui résiste plus facilement à la sécheresse, donc aussi très important par rapport au sujet actuel. Ouais. Qui vont faire des gros rendements, des très bons jus, des grosses grappes et autres aspects chez nous, qui est pas très sucré, donc faire des taux d'alcool à la fin un peu plus bas. Donc c'est aussi très important parce qu'en Languedoc on a beaucoup de soleil, donc justement les degrés d'alcool
peuvent monter rapidement à 14, 15.
Exactement. Et aussi, qui dit moins de sucre dit moins attractif pour les sangliers, qui sont une partie prenante essentiel d'un producteur de raisins, puisque les sangliers mangent la récolte. Et là, moins de sucre, donc pas intéressant pour les sangliers. Donc très intéressant pour nous, parce qu'on récolte tous les raisins de la parcelle.
Ouais, d'accord. C'est intéressant, effectivement, les cépages résistants, c'est quelque chose qui commence à émerger un petit peu. Il y a très peu de cuvées hein, aujourd'hui qui utilisent ça. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. C'est des noms assez poétiques, généralement.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Donc là, c'est tout un vocabulaire à apprendre aussi, parce que ça n'a rien à voir avec les noms de cépages qu'on peut connaître. Vous avez parlé un petit peu d'importer le rôle, donc le Vermentino, ce qui nous amène un petit peu justement sur ces aspects climatiques, etc. On sait que la sécheresse, c'est quand même un enjeu très très fort pour tout vigneron, et dans le Languedoc peut-être encore plus particulièrement. Comment vous gérez ça justement? Parce qu'après, tout le monde ne le sait pas forcément, mais l'irrigation est rarement autorisée hein, dans la vinification, dans les vignobles français. Donc comment est-ce que vous gérez ces aspects-là?
Donc nous, on irrigue quelques parcelles. On est en appellation, donc pour le système d'appellation, vous avez les AOC, les appellations d'origine contrôlée, protégée. Nous, on est en IGP, historiquement les 20 pays, et justement, on a un peu plus de liberté sur ces choses-là. Donc l'irrigation, c'est pas arroser la vigne. Hein. L'irrigation, en fait, vient permettre au sol et à toute la biodiversité, les micro-organismes du sol, de se nourrir, qui, eux, vont créer les nutriments, en fait, pour la vigne. Et donc là, on irrigue avec... une irrigation connectée, en fait, avec une solution qui nous permet de définir les besoins de la vigne et quand et comment irriguer. Et en fait, l'eau, du coup, on a mis en service, on a construit une retenue hivernale qui nous permet de collecter les eaux de pluie de l'hiver pour pouvoir irriguer l'été. Donc là, on a fait un gros trou. Donc on a de l'argile chez nous, l'argile qui est la matière la plus perméable. Donc en fait, un gros trou avec l'eau de la pluie de l'hiver qu'on va utiliser l'été. Donc ça... aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a dans le sud, on a très peu de pluie, mais quand on a un coup de pluie, on a grosse pluie. On discute beaucoup avec des vignerons des Pyrénées-Orientales qui nous appellent justement pour comprendre comment on a fait cet ouvrage. Mais en fait, chez eux, il n'y a pas de pluie. Donc
c'est encore pire.
On dit, vous pouvez creuser un trou, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que le but, c'est qu'ils se remplissent, quoi. Et donc, c'est comme ça un peu qu'on voit ça. Donc, on voit pour les cépages, et du coup, on a des vignes et des cépages qui vont aller, dont les racines vont tomber très, très bas, justement pour aller chercher l'humidité et l'eau dans les nappes. Donc, vraiment, des racines très, très profondes. Et on essaye de chercher des cépages un peu comme ça du sud, de Grèce, du sud de l'Italie, qui sont plus naturellement, en fait, aptes à survivre dans la sécheresse. Ouais. Et pour la retenue, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que du coup, ça nous permet de couvrir nos besoins pour l'irrigation. Et en fait, sujet, c'est société à mission, donc il n'y a pas que l'activité au sein du domaine, mais c'est une retenue qu'on met à disposition. On a signé une convention avec les pompiers et le SDIS de l'Hérault pour pouvoir leur mettre à disposition cette eau collectée. Parce que, autre sujet dû à la sécheresse, c'est les incendies, les feux de forêt chez nous qui sont très très importants. Et au final, le service d'un point humide pour la biodiversité aussi, c'est juste fou. Donc on a amendé la retenue avec des mares historiques du domaine. On a pris un seau de la mare historique qu'on a versé dans la retenue parce que ça va coloniser en fait les espèces végétales et animales aquatiques.
Ah, intéressant. Je crois que j'avais vu effectivement un post LinkedIn là-dessus
ouais.
sur ce sujet-là. D'accord, je comprends mieux maintenant.
Oui, c'était très étrange comme post de voir quelqu'un en botte avec un seau. Ok, il prend l'eau de la mare, il va verser l'eau dans la retenue. Ouais. Mais oui, c'est ça. D'accord. C'est Thomas, notre chef de culture, qui est passionné de ces sujets-là. Parce que c'est vrai que dans la vigne, même si chef de culture, au final, c'est très réducteur comme nom, mais c'est le terme historique utilisé. Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde plus seulement la vigne, en fait, on regarde tout ce qu'il y a autour.
Ouais. Alors, ça, petit à petit, on arrive à un sujet qui est vraiment très central dans l'évolution des domaines, hein, c'est la RSE, qui est de longue date un sujet très important pour votre père. D'où ça vient d'ailleurs, le fait de vouloir... parce qu'en fait, on peut se dire, bah oui, c'est naturel, c'est évident, parce que, bon, on travaille la vigne, on travaille la terre, etc. Bon, en fait, c'est pas du tout évident. Hein,
en effet, c'est ça. Donc. Je vous parlais tout à l'heure de 95, quand on est arrivé, quand on a été recruté, ce fameux importateur néerlandais, l'ancien propriétaire. En 2008, mes parents ont eu l'opportunité et la chance de pouvoir acheter l'entreprise et le domaine. Donc, je me souviens toujours de ce qu'ils nous ont dit à mon frère, ma sœur et moi. Rien va changer, vous allez toujours dormir dans le même lit. Mais en fait, tout va changer parce que maintenant, on est chez nous. Et c'est pour nous qu'on fait tout ça. Donc, ils ont signé le premier prêt de leur vie, premier emprunt, parce que dans la vigne, on est souvent logé là où on travaille. Donc, c'était le cas. Et premier prêt de leur vie. Et en fait, donc mon père s'est dit... Ok, pourquoi la banque en fait me prête autant d'argent et me permet de faire tout ça? Et cet argent, qu'est-ce qu'il représente réellement? Donc c'est vrai que concrètement, l'argent en effet permettait d'acheter des terres, du foncier, des murs, des tracteurs. Mais il a réalisé qu'en fait non, tout cet argent, c'est les 10 personnes à l'époque qui se levaient pour venir travailler tous les jours. Et donc il cherchait un moyen de, désolé pour l'originalité, mais donner du sens à cet argent et à toutes ces personnes qui viennent travailler tous les jours. Et en fait, c'est mon oncle qui travaillait chez Veolia à l'époque, chez qui la notion des RSE existait déjà, qui lui a dit « Mais en fait, ce que tu cherches, c'est la RSE. » Et c'est pour ça que dès le début, on a pris la RSE comme guide de gouvernance et de stratégie d'entreprise. Parce qu'il, même s'il était régisseur depuis le début, là, il s'est formé en management, il s'est formé en direction d'entreprise pure. Et en parallèle, on a cherché la RSE, comment... ceux qui étaient déjà animés par le sujet, c'était des grosses entreprises. Donc là, quand je dis grosses, c'est très très, très, très gros. Hein. Ouais. Et du coup, qui nous ont dit, non, vous êtes trop petits. Et nous, on a dit, ok, mais c'est très cool, on veut vraiment le faire, en fait. Et on s'est formé sur le tas avec des experts, des universitaires, des personnes de la théorie. Et on a construit nos propres outils, nos propres appréhensions en fait du sujet et de la démarche.
D'accord. Ouais, donc ça s'est fait un peu. Il n'y a pas eu une étincelle soudaine, mais quand même, en tout cas, ouais. C'est l'idée donner du sens. Alors, même si à l'époque, hein, donner du sens, c'était une expression un peu moins galvaudée qu'aujourd'hui. Et ce qui m'a pas mal frappé, on va rentrer dans les différents aspects, hein, de la RSE, évidemment. Mais avant ça, ce qui me frappe beaucoup dans votre démarche, c'est que. Plutôt que d'être un peu Monsieur Jourdain, on fait de la RSE sans le savoir, etc. Non, vous faites de la RSE et vous le savez. Et ça passe par quand même beaucoup de labellisation, beaucoup de certification. Pourquoi vouloir forcément aller dans cette direction-là? Parce que c'est pas le cas de tout le monde, en fait.
Ouais. C'est vrai que quand on s'est lancé là-dessus, on a eu une réaction très culture française, en fait. Hein, où on se dit, on se lance, on veut voir si... Si c'est bon, on fait bien. Et du coup, on s'est tourné vers l'ISO 26000, qui est la norme de la RSE, portée par la FNOR en France. Et on a fait notre première évaluation. Et là aussi, c'était super intéressant. Je me souviens, l'évaluateur était chez L'Oréal la semaine passée. Et il vient ici, il découvre cette boîte de 10 personnes qui est très fière de montrer nos vignes, les cuves, la cave. Et en fait, on voulait vraiment structurer la démarche. Parce qu'aussi, ça, on l'a pris très tôt et ça qui est très important. Pour nous, la RSE, c'est une démarche qualité. C'est un système de management de la qualité. C'est pas un catalogue de bonnes pratiques. Je prends souvent cette expression parce que justement, aujourd'hui, on a un peu tendance des fois à dire on fait de la RSE en exposant des...
On coche les bonnes cases.
Bonnes cases. On dit, vous faites de la RSE, oui, on trie nos déchets. Moi, c'est pas la réponse que j'attends, en fait. C'est vraiment toutes les procédures, la qualité derrière, parce que c'est ça qui donne du sens aux équipes. Et je prends souvent l'exemple d'un tractoriste qui a eu l'opportunité de quitter l'entreprise, d'aller chez un voisin pour un meilleur salaire, pour un meilleur poste, et qui a dit en fait, je veux pas y aller parce que je sais qu'on fera pas les choses bien. Et le bien, en fait, c'est justement toutes ces procédures, tous ces protocoles qu'on a mis en place, parce qu'on a défini ce que c'était pour nous faire bien les choses, et ça demandait certains produits, certaines façons de ranger, certaines procédures de vinification, de vendange, etc. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. Et au final, dans les labellisations, on voit, on a aussi l'opportunité de se faire challenger, parce qu'on a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous pour voir, et qui justement visitent des grosses entreprises ou d'autres entreprises qui peuvent nous dire « Ah mais attendez, eux ils ont fait ça, il faut que vous leur parliez parce que ça peut vraiment matcher avec vous et avec ce que vous faites. » Et c'est comme ça qu'on a un peu avancé. Et du coup, ISO 26000. Avant l'ISO 26000, c'est vrai qu'on s'était tourné vers la haute valeur environnementale qui était née. Et on était la première exploitation du département de l'Hérault à être certifiée en 2013. On en est très fiers parce qu'en fait... ce que dit souvent mon père, c'est que on n'a pas eu à faire grand chose. Il dit c'était bien parce qu'on n'a pas eu à changer beaucoup de choses et on a été certifié. Alors on était les premiers, donc on a eu des prix et tout. Donc c'est chouette parce que ça nous met déjà, ça donne une certaine exposition. Et du coup, on s'est dit mais c'était intéressant parce qu'en fait, ces certifications permettent vraiment de se poser des questions. L'HV aujourd'hui a pas très bonne presse, mais ce que je dis souvent en fait, peu importe, c'est pas le résultat en fait qui compte, c'est la démarche. Et ça permet de se poser des questions. Et de se dire, ok, pourquoi tel produit, à cause de plutôt que tel produit, ok, planter des haies, mais pourquoi, c'est quoi l'impact? Et donc vraiment, on rentre dans une démarche, de se poser des questions et de se dire, ok, mais on a toujours fait comme ça, le vin c'est un très 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 vieux métier. Et on a vraiment tendance à reproduire ce qu'on faisait dans le passé. Ou à faire comme le voisin. Et en fait, ça nous permet de se challenger sur des idées. C'est comme ça, par exemple, un des codes historiques du vin, c'est la capsule. La capsule, c'est ce complexe plastique-aluminium qui est en haut de la bouteille. Et où, de par nos démarches, donc après l'ISO 26000, on est parti sur Bicorp. On a commencé à chercher, travailler l'analyse de cycle de vie du produit, etc. Et on se pose des questions, ok, par quoi on pourrait remplacer la capsule pour avoir un complexe papier recyclable, etc. Et au fur et à mesure des recherches, mais pourquoi on met la capsule en fait? On met la capsule parce qu'on a le sceau des douanes, la Marianne dessus. Ok, mais en fait, on peut ne plus l'utiliser depuis 2019. Ok, donc là, on se regarde tous, et c'est, donc pourquoi on le met? parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a toujours eu une capsule. Ok, est-ce qu'on peut l'enlever ? Nous, on est là depuis 30 ans, donc c'est la peur d'enlever ça. Et nos clients, ouais. Comment ils vont réagir ? Ça nous a pris 4 ans, hein, 4 ans d'enquête pour que nos clients nous disent « Non, mais c'est bon, allez, on y va. » Et en fait, c'est nos clients qui nous ont dit « Non, mais c'est bon, allez, on y va et on arrête et on se lance et on l'enlève. » Et donc, en fait, c'est ces démarches-là, ces certifications, ces labels qui nous permettent de nous challenger, de sortir des nouvelles questions. Bicorp, qui est un modèle anglo-saxon, donc qui a des questions et qui nous font vraiment prendre encore plus de recul sur certains sujets, notamment sur le social. Et c'est super intéressant parce que la culture française, on arrive au bout de la diversité, la culture anglo-saxonne et sur l'inclusion, là où en France, on n'est pas trop sur l'inclusion parce qu'il y a des lois déjà qui ne permettent pas, on va plutôt prôner le CV anonyme et on ne voit pas les couleurs, ce genre de choses. Là où la culture anglo-saxonne, non, tu vois que tu peux saisir mon genre si je te le dis, tu peux saisir ma couleur parce qu'en fait, c'est visible en fait. Et en France, non, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on va. Donc, par rapport à la loi et à la culture de l'entreprise, c'est pas un sujet qu'on aborde, mais en fait, ça permet de prendre du recul et de se dire, ben, en fait, si j'ai quelqu'un dans l'entreprise qui nous rejoint, qui est sensible à ces sujets-là et qui veut justement être intégré comme tel, eh ben, j'ai déjà un peu d'armes parce que je sais quelles questions je dois me poser.
C'est intéressant. On reviendra un petit peu justement sur cette capsule parce que je pense que tout le monde se rend pas compte que l'univers du vin, alors c'est pas spécifique au vin, mais est quand même très traditionnel, quoi. Hein.
Oui. Oui, on peut le dire.
Et donc c'est vrai que la bouteille, changer quelque chose sur la bouteille, c'est voilà.
Ouais. Ah ben 4 ans pour ce petit voilà. Bout de plastique alu, quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a cette image de bah, sur une bouteille, il y a une capsule, c'est normal, ça a toujours été comme ça.
Exactement.
Pourquoi on changerait ? Changer d'étiquette, mais pourquoi on changerait d'étiquette ? Et généralement, c'est plutôt là pour le coup, c'est un peu la loi qui fait évoluer les choses, qui permet des choses qu'elle ne permettait pas, hein, comme la capsule. Il y a l'étiquette aussi, on va y revenir aussi, qui évolue. Mais si on prend un petit peu les différents aspects de la RSE, on va peut-être commencer par l'environnement. Alors on en a un peu parlé sur tout ce qui se passe à la vigne, pour la vinification. En revanche, on n'a pas encore trop parlé de ce qui se passe après, sur le packaging, sur le choix des bouteilles, etc. Et je sais que, bon, on vient de parler de la capsule, hein, mais je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup. C'est quoi les enjeux pour vous à ce niveau-là ?
Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui... on est à entre 30 et 40% du bilan carbone qui sont portés par la bouteille. Voilà. Le vin est un produit où le contenant est plus lourd que le contenu. Et ça, c'est un énorme sujet parce qu'il y a des codes et des traditions qui disent, par exemple, bah, que plus la bouteille est lourde, meilleur va être le vin.
Ouais.
et en fait, non, là c'est non. Il faut arrêter tout de suite parce que justement, c'est terrible l'empreinte carbone de la bouteille en fait. Donc nous on a engagé une démarche de réduction du poids de la bouteille. Donc aujourd'hui on a réussi à tomber à 405 grammes. Une bouteille est dite légère, donc par Citeo, la Delph, quand on est en dessous de 420 grammes. Voilà. Il y a beaucoup de traités, de chars, de consortiums qui sortent dans le monde avec des dynamiques de collectifs qui disent on va essayer justement, on s'engage à tomber en dessous de 420 grammes d'ici 2030, 2040. Et donc, nous, on y est sur ça. On avait peur, voilà, encore une fois, un changement, on avait peur. On fait beaucoup, nous, de ventes par correspondance, donc un envoi direct chez le consommateur particulier, donc on avait peur de la casse. Mais en fait, on a eu zéro casse. Et je me dis, c'est fou, en fait, 400 grammes, c'est possible, quoi. Mmh. Et donc, on est vraiment sur ces sujets-là. On exporte à 90% notre production, de par ce que je disais au tout début, hein, Cabernet Sauvignon, Merlot, c'est des cépages qui ne sont pas très typiques de chez nous, 20 pays, donc historiquement, le consommateur français était très très attaché à ces appellations. Aujourd'hui, de moins en moins, justement, il cherche à comprendre ben, qu'est-ce que je bois. Mmh. Au final, que ce soit un vin de France, un AOP Pic Saint-Loup, il s'en fiche, il veut savoir qu'est-ce qu'il boit, qui l'a fait, comment il l'a fait. Mais du coup, ben, nous, comme on faisait des cépages qui étaient appréciés dans le monde entier, et que le premier propriétaire était néerlandais, on est parti surtout en Europe. Et donc là, bah, qui dit export, dit émission carbone avec le fret.
Transport, ouais.
Donc là, c'est trouver un modèle marketing qui nous permet d'envoyer nos bouteilles en camion complet. Voilà, en fait, on n'a pas une palette qui part comme ça. Non, on a 30 palettes dans le camion et elles partent en une fois pour une action commerciale où du coup, les consommateurs se disent « Ok, je sais que je recevrai mon vin dans 3-4 semaines, mais c'est comme ça. J'optimise aussi les coûts de stockage du partenaire parce que ça arrive et puis après, c'est redistribué directement chez le client. »
Si on passe un petit peu sur le social, alors c'est un sujet qui est important pour la maison. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit pris à bras le corps par beaucoup de domaines. Parce que il y a des employés, etc. Mais vous avez une vraie politique sociale vis-à-vis de vos employés. Ça peut paraître tout bête pour beaucoup d'entreprises, mais vous faites un baromètre social. Il y a des vraies démarches. En plus, c'est vrai que dans Bicorp, il y a tout un enjeu sur le social qui vont peut-être vous pousse aussi à faire des démarches que vous feriez peut-être pas naturellement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager quelques initiatives que vous faites qui vous paraissent peut-être un peu étonnantes? Alors enfin, il y en a une que j'ai trouvée, parce que pour le coup, je trouve ça très étonnant de la part d'un domaine, vous avez même un culture code, que je trouve assez fou en fait, parce que c'est pas du tout, on se dit pas, tiens, un domaine va faire son culture code.
En effet.
Est-ce que vous pouvez nous partager quelques initiatives là-dessus?
L'enjeu, nous, on veut vraiment mettre l'humain au corps des pratiques. Je vous disais tout à l'heure, on a la vigne, la cave, le bureau. Et en fait, ça a forcément créé autant de disparités que de richesses. Parce que richesse de compétences, de métiers, c'est fou. On fait beaucoup de petits instants vie ma vie. On doit tous passer dans la cuve. Il y a une étape des vendanges qui est le décuvage, où justement, on doit séparer la partie solide de la partie liquide. Les moûts de raisin, le marc, en fait, comme le marc de café. Et on doit tous passer dans la cuve avec la pelle et sortir le marc de raisin. Et c'est des petits trucs comme ça pour comprendre un peu les métiers de chacun. Et en fait, le culture code, là aussi, c'est une approche purement qualité. Parce que je me dis, si quelqu'un débarque dans l'entreprise et que pour lui donner le maximum de billes dès le début pour comprendre comment on fait les choses, quels sont les comportements qu'on ne tolère pas. Donc dans le culture code, il y a la charte éthique, il y a les conventions collectives. Donc ça, c'est de l'affichage obligatoire, les conventions collectives, mais mine de rien, c'est pas très affiché dans certaines entreprises. Et en fait, on a tout ça, on a les fiches techniques de Dovin, les tarifs déployés au personnel. Voilà, s'il y a des gens qui arrivent, des stagiaires, même s'ils sont là pour un mois, ils ont accès à des tarifs préférentiels. Peut-être qu'ils ne vont pas oser demander « Est-ce que j'ai le droit d'acheter du vin ? À quel prix ?» Là, en fait, ils ont tout sous la main et ils ont tout ce qu'il faut. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est ce qui permet d'ouvrir le débat aussi. Il y a quelque chose qui est source de beaucoup de frustration, c'est les non-dits, en fait. Et là, au moins, vu qu'on a quelque chose, un outil qui permet d'ouvrir le débat, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Parce que justement, si on sent qu'il y a un petit caillou dans la chaussure quelque part, on se dit « Attends, allez, on se pose tous ensemble. Le culture code, ok. Normalement, on a tous les aimants là-dedans qui permettent de répondre à nos questions. Et s'ils ne sont pas, on va pouvoir les enrichir. » Dedans, le premier papier, c'est la politique sociale. Donc c'est ça qui est assez important. Et quelque chose qui, en termes social, justement, qui est assez intéressant, c'est qu'on a... On a mis en place un accord d'intéressement il y a 4 ans qui est indexé donc sur un premier palier qui est le chiffre d'affaires et le rendement. Le rendement, c'est le nombre d'hectolitres générés par hectare dans la vigne au moment des vendanges. Et ensuite, on a une douzaine d'indicateurs RSE. Donc, on le construit au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, on va un peu changer son orientation pour 2024. Mais pour 2023, à la fin, on avait en fait... Les trois piliers de notre mission. Et c'est comme ça, on en reparlera tout à l'heure, qu'au final, on a un peu bouclé la boucle, justement, de la démarche RSE, indicateur RSE, indicateur de mission, indicateur d'impact, comment on mesure vraiment l'impact de l'entreprise. Et aujourd'hui, l'équipe, on est tous intéressés dans cet accord d'intéressement financier, en fait. Mmh. Et sa particularité, c'est qu'on a les objectifs pour obtenir 100% de la prime. Et pour certains indicateurs, la société peut abonder l'objectif. Donc si on dépasse l'objectif, on peut avoir 125, 150, 175% de la prime. Et au contraire, si on n'atteint pas l'objectif. Il y a certains indicateurs où on se permet de se mettre quand même des objectifs pour avoir 75-50% de l'imprime. Il y en a où c'est 1 ou 0. Hein. C'est indispensable. Donc, soit on a 100% de l'imprime, soit on a 0% parce que cet indicateur est essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, ça met du lien entre toutes les équipes. Parce que qui dit vigne, cave, bureau, dit que parfois, l'équipe de la vigne, là, c'est la taille. Ben, je les vois très rarement, sauf si je sors pour aller les voir et leur demander comment ça va dans la vigne.
C'est intéressant d'avoir un accord d'intéressement aussi, un collectif comme ça, avec de les relier aux objectifs de mission. C'est effectivement une très très bonne approche. Si on regarde un petit peu d'un point de vue sociétal, alors il y a pas mal de sujets qu'on pourrait traiter, mais il y en a un, parce que quand même, in fine, vous êtes producteur d'alcool. Et donc c'est vrai que le sujet de la consommation, de l'addiction, arrive inévitablement. Et je sais que le sujet de la consommation responsable fait partie des aspects que vous creusez. Comment vous essayez justement de traiter ce sujet-là, parce que vous ne maîtrisez pas non plus la consommation de vos consommateurs.
C'est ça, exactement. Et puis, c'est aussi une posture où on peut nous dire qu'on est un peu hypocrite parce que on doit vendre notre produit. Donc, c'est un peu Patagonia, n'achetez pas cette veste. Mmh. Voilà, c'est la campagne, c'est un peu la même posture. Mais pour nous, c'est juste essentiel, en fait, de pouvoir donner... Enfin, ce que je dis souvent, c'est que quand on achète un paquet de pâtes, on a le temps de cuisson, on a vraiment les indications pour préparer le plat et pour le consommer, parce qu'il y a toujours une idée de recette, etc. Et en fait, le vin, je me dis, mais c'est un produit de consommation, donc on devrait faire pareil. On doit indiquer comment on peut consommer ce produit. Et on s'est tourné vers le maire du village où on a notre domaine Montlobre, à Vaillocaisque, donc ce maire qui est également médecin addictologue. Et on lui a proposé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc on a écrit en 2015 une charte de la dégustation responsable, pour justement qui donne des grands principes pour expliquer que la dégustation, c'est un moment de pleine conscience, c'est un moment de partage, c'est un moment où on conseille d'avoir un sachant, un non-sachant, en sachant que le sachant, c'est juste un adulte peut-être qui consomme depuis longtemps, qui veut expliquer à son enfant, à un jeune de 20 ans, regarde, c'est comme ça qu'on consomme. Et ça, c'est important parce que là, chez la jeunesse, les tendances de binge drinking, la consommation de biture, c'est quelque chose qui est assez présent. Et justement, on donne les guides pour tout ça. Donc c'est vrai que cette charte, elle était intéressante. Aujourd'hui, près de 10 ans après, on s'est dit, ouais, c'est facile, c'est un truc, on l'a imprimé, c'est des mots, c'est chouette, il faut lire. Mais non, les gens, ils lisent plus les mots écrits comme ça sur une grosse charte. Donc là, on a imprimé sur nos cartons, ce qui est très pratique puisque, comme je disais, on est en vente par correspondance, donc nos clients achètent souvent par carton, donc ils ont le marquage sur les cartons. Ou on a un peu mixé le message de Wine in Moderation, qui est une association internationale qui porte ce message de consommation responsable, qui est composé de scientifiques, de chercheurs. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondé sur un vrai discours scientifique. J'ai mixé leur message avec nous, les conseils qu'on donne à nos clients, avec des choses où je dis pas il faut déguster en pleine conscience, mais on le dit de manière détournée. Choisir son vin favori, on boit un produit qu'on a choisi pour X raisons. On boit pas pour boire parce qu'il y a quelque chose qui est disponible. Respecter les gens qui nous entourent, partager avec les plats qui nous font, qui nous plaisent et les gens qui nous font sourire, ça implique forcément qu'on va boire le vin dans un contexte de partage, de convivialité, d'alimentation aussi. On ne boit pas un vin tout seul, on boit un vin avec un verre d'eau, avec de la nourriture. On respecte et on prend soin de soi et des bouteilles dans sa cave pour dire c'est une attention particulière. Hein. Quand on sert un verre de vin, souvent, nous, on veut faire la promotion d'un moment privilégié, d'un instant de plaisir. Et c'est aussi un instant où on fait attention à sa santé et à son corps, parce que c'est ça tout le débat. Hein. C'est qu'on ne peut pas associer un message de santé avec... Avec le vin, quoi. Et le dernier, c'est on recycle la bouteille ou on la réutilise dans les bacs de tri respectifs. C'est un sujet qui est qu'aujourd'hui les producteurs de vin et maisons de vin prennent de plein fouet parce qu'il y a une énorme tendance sur la sobriété et sur la réduction de la consommation d'alcool. Donc je me dis, enfin, parce que bah, du coup, c'est le marché et c'est des enjeux commerciaux qui vont faire bouger les lignes un peu, puisque les tendances de vin sans alcool, de vin à alcool réduit sortent énormément. Là où nous, on a un enjeu, comme on disait, de degré, où il y a 20 ans, il y a 30 ans, justement, mon père me dit tout souvent ça, il touchait une prime quand on atteignait 14 degrés. Aujourd'hui,
c'est l'inverse.
Aujourd'hui, on est en mode non, on veut pas dépasser les 14, parce que justement, c'est avec le climat, ben, on atteint des gros degrés. Et en fait, le message de santé, c'est un message qui est très dangereux. Donc nous, on a vraiment une posture sur ça, où on va pas porter un message de santé, parce qu'on estime qu'on ne peut pas. C'est pas notre devoir, et vraiment, on n'a pas les armes pour. Mais on peut juste dire, comme pour un paquet de pâtes, comment vous pouvez utiliser et consommer nos vins.
Alors, on va passer à l'entreprise émission, oui. Quand même, parce que c'est le sujet du podcast, même si en réalité on en a parlé de manière assez indirecte. Déjà, pourquoi avoir fait le choix de passer société à mission? Parce que c'était fin 2021, oui. Pour vous. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'il n'y a pas grand monde hein, dans l'univers viticole pour le moment.
On a souvent l'image de la fusée à mission, hein, avec la RSE, la raison d'être, la mission. Et en fait, c'est vraiment ça. Nous, on voit le modèle comme permettre de présenter en tant qu'entreprise ce qu'on apporte à la société française. Et c'est ça qui nous plaît particulièrement, parce que la RSE ben, implique forcément les droits de l'homme et du citoyen, la collectivité, les communautés. Et vous le disiez un peu, et on se le dit aussi souvent, on fait du vin et de la RSE, parce que justement, on prêche quand même la bonne parole de la RSE un peu partout où on va. Et donc, la société à mission, c'était vraiment la suite logique des choses. Et en fait, ben, comme toujours, avec l'approche qualité, ce que j'ai adoré, c'est tout le travail de construction du modèle. Parce que tout à l'heure, je disais la boucle est bouclée, mais c'est vraiment ça qu'on a ressenti. Je prends souvent l'exemple d'Audrey, qui est en charge de la comptabilité chez nous. Je me dis, bah, elle, quand elle est dans sa vie privée, que les gens lui demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, elle répond, bah, je m'occupe de la comptabilité dans un domaine viticole. Et en fait, bah, le vin, on a un peu cette image, voilà, l'œnologue, le chef de culture, le maître de chez. Et on voit très bien la photo des mains avec de la terre sous les ongles et du raisin dans les mains. Et en fait, bah non, on fait tous du vin. Enfin, tous les métiers de l'entreprise servent à ce qu'on ait la bouteille sur les tables de nos clients. Et de devenir société à mission, ça montre vraiment cette mission commune, cette mission collective. Et la raison d'être, pour moi, c'est en fait, ça dit ce que tout le monde fait dans l'entreprise. Ça permet bah, qu'on fasse de la comptabilité, du marketing, ou qu'on ait des bottes et qu'on soit dans la cave. Mais en fait, on répond tous de cette raison d'être.
Et justement, parce que parlons un petit peu de cette raison d'être, hein, parce que vous y avez fait référence à plusieurs occasions. Donc je vais me permettre de la citer. Hein. Donc c'est nous créons le grand cru de tous les jours et façonnons nos paysages autant avec ceux qui côtoient nos vignes que ceux qui partagent nos vins. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette raison d'être?
Donc on parlait du grand cru de tous les jours tout à l'heure. Pour nous, c'était super important parce que c'est notre singularité. Et on veut montrer aussi qu'on fait du vin. Il y a beaucoup de raisons d'être où on ne sait pas trop ce que l'entreprise fait. Et nous, c'était très important pour nous, ça. Après, champ lexical de la création. Nous créons, nous façonnons, c'était super important. On voulait impliquer autant les clients, les consommateurs de nos vins, que les personnes, en fait, sur lesquelles on a un impact, mais qui ne sont pas consommateurs de nos vins. Je parlais tout à l'heure des villageois qui ont vu sur notre domaine. Eh ben, y en a beaucoup qui ne sont pas clients, qui ne sont peut-être même pas consommateurs de vin, mais j'ai quand même un impact sur leur confort de vie, quoi. Ceux qui côtoient nos vignes, ben, les premiers, c'est les salariés, donc c'est aussi super important de les considérer. Et en fait, pour la construire, on a un comité de pilotage RSE, qui est devenu aujourd'hui comité de pilotage stratégique, parce qu'en fait, on fait toute la stratégie de l'entreprise, qui est composée de tous les pilotes de la cave, logistique, la vigne, le social, le marketing, commerce. Donc c'est vrai que dans une petite boîte, ça représente un peu plus d'un tiers de l'entreprise, donc c'est chouette. Et c'était des grands moments où justement on est quand même parti d'une base qu'on avait travaillé un peu, que mon père avait un peu travaillé, et ensuite dictionnaire des synonymes, et allez, on cherche pour trouver à la virgule près ce qu'on veut écrire. On a un comité des parties prenantes qui nous a permis, on a pris des représentants de chaque famille de parties prenantes, embouteilleurs, institutions publiques, etc., pour leur présenter et qui nous disent un peu ce qu'ils en pensaient. Est-ce que déjà vous trouvez que ça nous représente bien? Et donc c'était intéressant d'avoir leur retour sur le fond, sur la forme et sur aussi comment ensuite l'intégrer dans l'entreprise auprès des équipes et auprès de nos parties prenantes.
Et donc là, on est quoi, 2 ans et demi à peu près après le passage en société à mission. Comment est-ce que vous regardez cette raison d'être?
Alors, pour le moment, je suis très contente parce que justement, je ne suis pas dans une optique à me dire qu'il faudrait changer des choses. Pareil pour nos objectifs statutaires. Donc ça, c'est plutôt chouette et on est toujours dans la même dynamique où on considère autant nos clients qui sont en Europe, donc qui sont loin de chez nous, que les gens qui sont chez nous, qui ont un impact, qui viennent se promener dans nos vignes le dimanche, mais qui en fait ne nous ont jamais rencontrés. Mais ils sont super importants et cette inclusion de tous les acteurs autour de nous sont très importants. Et pour ce qui est de la terminologie culturelle, artisanat qui est dedans, ça suit encore notre vision du vin, quoi.
Pour parler un petit peu des objectifs statutaires et peut-être même de la déclinaison opérationnelle, je vais citer un court paragraphe que vous avez écrit dans le rapport du comité de mission que je trouvais assez intéressant. En tout cas, là, c'est un vrai plaidoyer pour le modèle de mission. Pour tous ceux qui hésitent encore à faire un modèle de mission sérieux, je pense que là, maintenant, vous allez être convaincus. Donc, je vous cite. Définir le modèle de la mission de BLB Vignoble, donc c'est l'ancien nom de Maison Le Breton, a été une révélation pour l'entreprise. Bien plus qu'un nouveau prisme stratégique, c'est toute la posture qui a changé de cap. Au souci d'amélioration continue, s'est ajoutée l'exigence d'un développement économique préservant le capital écologique et social de l'entreprise. Une transition mettant au cœur de nos réflexions stratégiques le partage de la valeur, qu'elle soit sociale, environnementale ou économique, ainsi que le partage du pouvoir avec l'ensemble des parties prenantes. Je disais, c'est un vrai plaidoyer.
C'est vrai que, oui.
En quoi ça a été aussi fort pour vous de vous appuyer donc sur ces objectifs statutaires et de les décliner?
C'est, on en parlait un peu tout à l'heure, une maison de vin, c'est beaucoup dans la culture française. Il y a le produit, mais aussi tout ce que ça implique. Et en fait, pour nous, la société à mission nous permet vraiment de montrer voilà ce que notre entreprise apporte à la société d'aujourd'hui. La notion de valeur, c'est quelque chose qui est super important. On s'est lancé dans la RSE justement pour valoriser une valeur économique, financière, comptable. Non, en fait, il y a d'autres valeurs. Il y a la valeur environnementale, la valeur sociale. Et c'est ce qu'on sent qui est porté avec le modèle et la qualité de société à mission. Quand j'essaye d'expliquer un peu dans les écoles et aux gens, je leur dis en fait aujourd'hui, une entreprise, elle existe pour créer du profit, enfin, historiquement, voilà. Les statuts, la carte d'identité d'entreprise, c'est ça. C'est pas un mal, c'est juste comme ça. Et puis, bien sûr qu'on est là pour faire de l'argent, pour pouvoir payer nos salariés, nos fournisseurs. Et en fait, la qualité de société à mission montre qu'on peut exister pour bien plus. Parce que bien sûr, on existe tous pour bien plus que ça. Et de pouvoir intégrer ça dans les statuts, c'est pour nous, c'était un moyen de vraiment asseoir ce qu'on veut vraiment apporter à la société.
Sur les objectifs statutaires, parce qu'on a parlé de la raison d'être, mais comment ça se définit pour la Maison Le Breton?
Pareil, on est parti d'un constat purement marketing. Et en fait, ce qui nous représentait, nous, c'est le bon rapport qualité-prix. On parlait tout à l'heure des vins accessibles, bon rapport qualité-prix. Et on s'est dit, mais en fait, on a d'autres qualités. Et on a dit, on a la qualité gustative, oui. On fait un bon vin, on a la qualité sociale et environnementale, on en a parlé, on veut le faire bien et correctement. Et après, il y a toute cette partie émotionnelle du vin, du plaisir, du partage et de nos paysages où on a des gens qui sont peut-être pas consommateurs, mais qui sont aptés par ce que ça évoque, par la beauté que ça évoque. Donc du coup, ces 4 qualités, on les a on les a scindés en trois piliers, le bon, le bien et le beau.
C'est joli comme tout. Alors, dans le monde du vin, la démarche de passer société à mission, et surtout dans les domaines, c'est très confidentiel. Hein. Il y en a 3, 4, enfin bon. Si vous deviez vous adresser là, à d'autres domaines, pourquoi est-ce qu'ils devraient se lancer dans cette démarche-là ?
Encore une fois, ça va valoriser leur démarche, leur entreprise. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc nous, en tant que producteurs négociants, on est amené à se fournir dans des caves coopératives, chez des petits producteurs qui ont un réel impact sur leur collectivité, leur communauté. Parce qu'ils sont perdus dans la campagne, mais en fait, les écoles viennent faire les vendanges chez eux. Ils sont sponsors principaux de l'équipe de rugby. Ils font de la recherche pour tous les coopérateurs. Ils engagent leurs coopérateurs à améliorer leurs pratiques, à aller sur des certifications. Et donc peut-être qu'ils se disent, ils se disent totalement, non, on n'a pas le temps, démarche RSE, machin, ceci, cela. Mais en fait, c'est déjà dans leur ADN de faire ces choses-là. Et aujourd'hui, je pense que ça pourrait apporter encore plus de valeur et de fierté pour leurs coopérateurs, les vignerons, de se dire, on est reconnu comme tel, on fait les choses comme ça parce que pour nous ça a du sens et c'est ce qu'on veut faire. Mais en fait, c'est reconnu comme tel, c'est gravé dans le marbre et ça valorise aussi, mine de rien, l'entreprise en termes financiers. Si un jour l'entreprise doit être revendue, elle est société à mission, elle est engagée, ça fait partie de sa culture, son ADN, c'est comme ça que ça doit se passer.
Très bien. On va passer à quelques questions un peu plus personnelles pour terminer. Donc je disais, jusqu'à peu, l'entreprise s'appelait BLB Vignoble, hein, comme les trois, l'acronyme des initiales de votre père. Vous avez changé de nom il n'y a pas longtemps pour s'appeler Maison Le Breton, ce qui ancre davantage l'aspect entreprise familiale, parce qu'il y a trois enfants, hein, si je ne m'abuse, désormais au capital de l'entreprise. Donc vous êtes la prochaine génération. Comment est-ce que vous gérez ça ? C'est une pression, un défi, une fierté
un peu de tout. Un peu de tout, tout le bon cocktail. C'est une fierté parce que c'est vrai que travailler pour soi, pour sa famille, c'est sûr que c'est super intéressant. Mais en même temps, c'est marrant de travailler en famille parce qu'on est dans une culture d'entreprise. Mais en même temps, c'est une culture très familiale parce que je parle à des gens avec qui je mange le week-end, avec qui je mange le midi. Donc nos discussions familiales portent aussi sur les projets de l'entreprise parce que c'est notre patrimoine et qu'on veut le valoriser autant pour nous, pour notre conviction, parce que au même titre que quelqu'un aime bien avoir un beau jardin potager dans son jardin, nous on veut que notre jardin, en fait, il soit sympa et qu'il ait une belle valeur et un beau impact. Et le défi, parce qu'en effet, la relève, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, avec mon frère et ma sœur, on est en train de travailler la transmission pour que justement nos parents nous transmettent l'entreprise. Ma sœur qui travaille à Paris dans la communication, qui elle est moins proche du vin, mais qui accompagne beaucoup sur les sujets de communication, de stratégie, d'influence, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir son regard. Mon frère, lui, qui vient de terminer ses études, qui est ingénieur agro, lui, il est dans le vin. Et lui, il est dans une belle maison de vin actuellement, où justement, il découvre un monde de protocoles très cadrés sur lesquels on peut s'inspirer parce qu'il a un très beau recul et il vient vraiment enrichir cette démarche qualité dont on est, dont on est fan. Et donc, on travaille justement cette relève et ça permet de prendre un nouveau recul, un nouveau souffle aussi sur des choses qu'on fait depuis 30 ans ou auxquelles on est très attaché, parce qu'en fait, sans ces choses-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et en fait, on se dit, où est-ce qu'on va les porter maintenant, aujourd'hui, demain.
Un beau défi, effet. Alors, je finis tous les épisodes par le coup de cœur musical de l'invité. Donc, ça peut être un morceau, votre coup de cœur du moment, un morceau qui vous suit de longue date, quelque chose qui résonne avec nos échanges. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Donc, j'en ai bien discuté avec ma sœur, justement. On aime beaucoup la musique et on cherchait... Je lui dis, là, on est dans une dynamique de mouvement, parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets dans l'entreprise. On parle de la désalcoolisation, on parle de packaging alternatif. Et je lui dis, mais en même temps, nous, c'est justement, c'est tout l'historique, exactement ce que je viens de vous dire. Donc, on est parti... sur une musique qui a bercé notre enfance et qui en fait résonne beaucoup aujourd'hui, donc Étienne Dao, Le premier jour du reste de ta vie. Et parce que on a grandi avec des Français anglo-saxons, que ce soit U2, Toto, Eras, voilà, Étienne Dao, Téléphone, et on a cette image de, on a une grande fenêtre qui est ouverte sur le platane qui est dans la cour, qui est du coup sur nos étiquettes. Et en même temps, cette musique, elle est porteur de changement en fait, et elle invite à danser et justement se dire qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui, demain, de quoi va être fait notre vie. Et du coup, c'est autant justement le réconfort, nous, de notre enfance, que justement, on a plein de choses à construire, donc qu'est-ce qui nous attend ?
Très bon choix, on va l'écouter.
Puis un soir, le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix ? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel.
Merci beaucoup pour ce choix musical. Ça fait un petit moment que je n'avais pas entendu en plus cette chanson. Pour terminer, alors là il est tôt hein, quand on enregistre, donc on n'a pas agrémenté notre échange d'un verre de vin, mais si vous aviez dû choisir un vin pour accompagner notre échange, ça aurait été quoi ?
Ça aurait été Une belle histoire de la Jazz, qui est un 100% roll. Donc on parlait du Vermentino et des nouveaux cépages tout à l'heure, qui est un vin en fait qu'on a créé l'année dernière, qui est sur la belle acidité du Vermentino, qui nous a offert, nous, je pense, c'est un des premiers produits vraiment changement, quoi. On s'est dit, allez, on change, on va essayer quelque chose de nouveau. Donc c'est chouette parce qu'on a testé quelque chose. C'est un vin qui est à 11 degrés d'alcool, donc un peu plus léger que ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver et nous de faire. Donc très agréable, tout en fraîcheur, naturel, un vin qui est des raisins qui sont vendangés tôt le matin. Et il est légèrement perlé, parce que justement on a ajouté à la mise en bouteille un peu de gaz pour apporter du corps à ce cépage qui est très aromatique mais qui a une belle acidité, et ça en fait un vin qui est super agréable à boire, à partager, et qui délie bien les langues pour pouvoir discuter de toutes ces belles choses.
C'est parfait. Hâte de pouvoir le déguster à un moment. En tout cas, un très très grand merci Morgane pour cet échange et pour ce partage. Parce que c'est vrai qu'on a discuté quand même de beaucoup beaucoup de sujets. Je pensais pas qu'on arriverait à tout traiter, mais on a presque réussi. Donc un très grand merci à vous, et j'espère que ça pourra inspirer aussi d'autres vignerons ou d'autres maisons, domaines à se lancer dans cette démarche-là, que ce soit la société à mission, des démarches RSE un peu plus poussées, ou peut-être même un culture.
Ouais.
Allez. En tout cas, un très très grand merci à vous,
merci
et
à bientôt. À
bientôt. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez plein d'entrain, d'envie et de bonnes idées. Mais pas si vite. Et si d'autres pouvaient avoir la même pêche que vous après cet épisode ? Pour ça, rien de plus simple, c'est vous qui avez les moyens entre vos mains. Soit en notant le podcast, surtout sur Apple Podcasts ou sur Spotify, depuis votre smartphone, soit en partageant cet épisode à votre entourage, ou en faisant un post sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen d'améliorer le référencement du podcast et de le faire connaître à d'autres. Et si vous avez des entreprises à mission à interroger, peut-être même la vôtre, contactez-moi directement sur LinkedIn ou par email. Et si vous souhaitez me faire part de vos questions, comme je le disais en introduction de cet épisode, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous pour un futur épisode. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous plonger dans les précédents échanges, il y en a quand même un petit paquet maintenant, et à bientôt pour un nouvel épisode.